Les questions politiques en direct et jusqu'à 13h, ça commence maintenant. L'invité de questions politiques aujourd'hui, le leader du parti présidentiel, il doit mettre la majorité en ordre de bataille. Mais comment se battre en même temps sur tous les fronts, européennes, déjà les municipales, en même temps qu'il faut imaginer le second souffle du quinquennat et faire corps autour d'un président qu'on décrit seul comme jamais. C'est lui que nous voulions entendre au terme d'une semaine importante et agitée pour son camp. Le délégué général de La République En Marche, député de Paris, Stanislas Guérini, s'est installé dans le studio de questions politiques. Intervenez sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous.
Virginie Malingre du journal Le Monde. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Stanislas Guérini, ce sera dans quelques minutes. Hier, vous lanciez votre campagne pour les élections européennes. Premier meeting à Aubervilliers en présence, bien sûr, des candidats de la liste Renaissance, du Premier ministre François Bayrou, une grande partie du gouvernement. Précisons pour bien comprendre, la liste que vous présentiez hier à Aubervilliers, ce n'est pas une liste La République En Marche.
Non, c'est une liste de rassemblement. Nous, on pense que ça vaut le coup, que, y compris quand on vient de parcours politiques différents, d'horizons politiques différents, ça vaut le coup de se rassembler. Parce qu'on est dans un moment qui est un moment historique pour l'Europe. On est un moment où on a besoin d'Europe comme jamais. Il y a des forces à l'extérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, qui veulent sa destruction. D'une certaine façon, l'Europe a aussi organisé sa propre impuissance. Et donc nous, on dit que ça vaut le coup de se retrousser les manches, de se rassembler pour mener des combats, pour refonder l'Europe.
On va en parler justement, parce que cette alternative que vous formulez, c'est celle qu'avait formulée déjà le président de la République il y a quelques mois, moi ou le chaos, pour le dire rapidement, moi ou les nationalistes, les populistes. On va en parler, mais encore une précision, c'est une liste qui porte le nom de Renaissance. Qu'est-ce qui est mort ?
Mais c'est précisément l'Europe politique qui a manqué. Vous savez, depuis une décennie, peut-être un peu plus, au Parlement européen, les choses se sont organisées dans une sorte de dialogue un peu paresseux, un peu confortable, entre deux grands groupes qui n'ont pas proposé de projet politique pour l'Europe. Et donc l'Europe, elle s'est éloignée des peuples. Et nous, on veut dire qu'il est temps de se battre, de mener des projets concrets pour l'engager dans la transition écologique, pour que l'Europe puisse mieux défendre les citoyens européens. Il y a du boulot. Et donc, c'est pour ça qu'on porte cette idée de renaissance.
Karine Bécard.
Quel a été votre rôle dans la constitution de cette liste ? Alors, pour l'instant, on n'a que les 30 premiers noms. On a le sentiment que tout a été géré par Emmanuel Macron. Est-ce que le patron du parti présidentiel a eu un petit rôle à jouer ?
Oui, bien sûr. Ça a été un travail collectif parce que, je le disais, c'est une liste de rassemblement. On a été effectivement dans des discussions avec d'autres formations politiques parce qu'on pense que c'est un moment où il faut un rassemblement très large au niveau national et au niveau européen.
Qui êtes-vous allé chercher ?
Bah, je ne vais pas le faire nom après nom, mais...
On a le sentiment quand même que tout est écrasé par Emmanuel Macron, donc quel est votre rôle en fait,
c'est ça ? Pascal Canfin, de façon assez approfondie, sur le fond, pour qu'on puisse se dire, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se rassembler. On peut ne pas être d'accord, y compris sur tout, y compris au niveau national. Mais les combats qu'on a à mener au niveau européen, ils sont tellement importants que, oui, ça vaut le coup de se rassembler sur cette liste pour mener ces combats
européens. Donc, enfin, c'est vous.
Mais ça, c'est ridicule de dire, c'est moi, c'est pas moi, etc. Oui, j'ai eu des discussions avec Pascal Canfin, il y a quelques semaines, quelques mois, pour tout vous dire. On avait, à ce moment-là, d'ailleurs, peu parlé de la liste sur le fond. On a parlé d'écologie, on a parlé de transition écologique, on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup ? Et puis ensuite, les discussions se sont poursuivies avec Stéphane Séjourné, le directeur de la campagne, qui a un rôle extrêmement important. Et collectivement, on a...
Il a un rôle très important, il a découvert le nom des candidats, il ne savait pas prononcer les endroits où étaient élus un certain nombre de personnes de la liste. C'était ahurissant comme scène quand vous avez présenté la liste.
Je peux témoigner que jour et nuit... depuis plusieurs semaines, l'équipe est au travail et à la tête de cette équipe, Stéphane Séjourné est au travail. Il a été le grand artisan de la Constitution.
Mais alors, comment pouvait-il ne pas connaître les noms des personnes présentes sur la liste, Stanislas Guérini ?
On a des sujets qui sont tellement importants.
C'est un sujet important. Ça n'est absolument pas anecdotique. Ça n'est pas anecdotique, Stanislas Guérini. Quand on ne connaît pas, c'était la plupart des noms et c'était même les lieux où étaient élus un certain nombre nombre de personnes, des élus locaux, qui se présentent sur la liste Renaissance.
Un moment formel de présentation. Il a buté sur quelques noms. Je crois que c'est objectivement assez secondaire au regard des enjeux qui sont devant nous.
On va en parler, et ça n'est pas secondaire parce que ça donnait un spectacle assez consternant.
Ouais, moi, ce qui m'importe, c'est que cette liste, ça soit une liste qui soit à la fois de personnes engagées, qui soit extrêmement complémentaire, les parcours des uns et des autres. Certains ont leur parcours plutôt dans l'écologie, d'autres justement défendent l'agriculture. Et cette
vous
liste-là,
les connaissez tous,
elle va.
Rassurez-nous.
Mais oui, je les connais.
Vous
pouvez vous livrer à un quiz si
non,
vous
voulez. On a peur.
Mais surtout, j'insiste sur un dernier point. Ouais. Les gens qui sont sur cette liste, ce seront des députés européens engagés. Et peut-être que la différence, c'est celle-là. Nous, on souhaite avoir des compétences pour que les personnalités qui demain seront à Bruxelles puissent porter des combats. C'est aussi le retour de la France politique dans les institutions européennes qu'on veut proposer.
Alors, vous parlez de rassemblement, d'horizons divers, et Madame Loiseau, votre tête de liste, elle a évoqué, je cite, les recasages et les replâtrages. Pas pour parler de vous, bien sûr, pour parler des autres listes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi du recasage et du replâtrage chez vous, lorsque vous recyclez, par exemple, on en parlait à l'instant, un ancien collaborateur de l'Élysée, une ancienne maire de Strasbourg, Madame Keller, un ancien journaliste de renom. Est-ce qu'il
n'y
a pas là aussi du replâtrage? Pardon, mais
je crois que c'est une liste un peu fourre-tout. Mais vraiment, je crois que c'est tout le contraire, parce que ces personnalités-là ont un point commun, c'est un engagement réel, lointain, historique, qui est très cohérent avec leur parcours personnel pour l'Europe. Et je pense que le moment est venu dans ces élections, non pas de parler des petites problématiques des formations politiques nationales, mais de parler d'Europe. Et nous, la liste que nous proposons, c'est une liste qui présente au contraire une très très grande cohérence vis-à-vis des enjeux européens.
Virginie Malingre.
Alors hier, Nathalie Loiseau et les autres colistiers qui ont pris la parole ont placé l'urgence climatique comme vraiment la première priorité de cette campagne et de cette liste. Mais est-ce que vous pensez que vous avez encore une crédibilité écologique forte?
Oui,
après
je pense.
Tout ce qui s'est passé depuis la
Stanislas Guérini.
Oui, je le pense profondément. D'abord parce que je pense parfois que le bilan qui est fait de ces 18 premiers mois de quinquennat est parfois injuste au regard de la politique qu'on mène en matière de transition énergétique. On mène une politique qui est volontariste. Je vais pas vous faire la liste là exhaustive,
non,
mais quand
d'autant
on
que
fait
quand
le choix,
on voit les millions de signataires de la pétition L'Affaire du siècle, quand on voit les jeunes descendre dans la rue pour interpeller l'État, et quand on se souvient des larmes de Nicolas Hulot, bon, toutes ces personnes mises bout à bout ne donnent pas la même impression que ce que
mais
vous dites.
J'ai aussi le droit de défendre factuellement ce qu'on fait depuis le début du quinquennat. Je vais pas vous faire la liste entière,
non,
mais quand on fait le choix de fermer les centrales à charbon, c'est l'équivalent de la pollution.
Elles ne seront pas toutes.
En 2022, elles ne seront pas toutes fermées.
Celle
qui est proche de Saint-Nazaire ne sera pas fermée.
À charbon,
mais il en
reste. C'est l'équivalent de 2,5 millions de voitures en matière de pollution. C'est un choix qui est très important. On accélère comme jamais un gouvernement n'a accéléré en matière d'énergie renouvelable. On le dit trop rarement. On va multiplier par 5 la puissance d'énergie solaire. C'est un sujet que je connais très bien, installée dans le pays. Tout ça, ben c'est une politique, effectivement, qui est volontariste.
Des petits retraits, il y en a eu plein, des petits reculs, il y en a eu beaucoup.
Je vais dire des choses sans complaisance. Je crois que, collectivement, il faut que nous fassions plus. Il faut que la transition énergétique, elle, finalement, imprime toutes les politiques que l'on puisse mener. C'est ce défi-là qu'on a en face de nous.
Vous savez que
et
vous
pour
êtes
faire ça,
votre
pour faire
parti
ça,
est au gouvernement.
Il
mais,
faut
mais, parler
mais,
des élections
mais,
européennes.
Écoutez, j'essaie de vous répondre de façon franche en disant à la fois ce qu'on fait et ce qu'on doit faire plus. Et donc on doit faire plus au niveau national. Je crois qu'on doit mieux embarquer nos concitoyens, si je puis dire, mieux les accompagner dans la transition énergétique, leur permettre de changer
restons
de voiture.
Restons sur les élections européennes, Stanislas Guérini.
Et le faire. Vous avez raison. Au niveau européen,
oui.
C'est pour ça que nous faisons des propositions très fortes dans cette campagne, à la fois sur un plan d'investissement, de créer une banque pour le climat. Je pense que c'est une proposition qui est extrêmement forte.
Oui.
De ne plus signer d'accord avec des pays qui n'ont pas signé
l'accord de Paris. Elle vient de Jean
Jouzel. Il y a des propositions qui sont extrêmement fortes et des
prix
ambitions.
Avec le GIEC. Et en l'occurrence, qui a été reprise par le président de la République.
Les bonnes propositions, il faut savoir les reprendre.
Oui, ça c'est sûr, on appelle ça la triangulation en politique. Pourquoi voter pour la liste La République En Marche alors qu'il y a un parti écologiste?
Parce que demain, nous allons former au Parlement européen un groupe
alors
qui
justement,
aura une chance de gouverner en Europe. Et ça, c'est une vraie différence. C'est-à-dire que les formations politiques telles
alors
qu'elles
que
étaient aujourd'hui...
Alors que pour que tout le monde comprenne, Stanislas Guérini, pour qu'on comprenne bien, les députés, les eurodéputés, La République En Marche, ne siégeront ni avec les socialistes européens, ni avec le Parti Populaire Européen, donc la droite, ni avec les Verts. Avec qui est-ce qu'ils vont siéger?
Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous disons que le Parlement européen demain, il ne pourra pas ressembler au Parlement européen tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire un Parlement européen où deux groupes hégémoniques, vous les avez cités, se sont répartis tous les postes et ont, d'une certaine façon, enfermé l'Europe dans une sorte de long sommeil.
Mais donc
nous voulons construire un nouveau groupe qui soit un groupe central au Parlement européen, sans lequel rien ne pourra se faire demain. Notre base de départ, c'est le groupe qui réunit des libéraux et des démocrates, ça s'appelle l'ALDE. Et donc, nous avons cette base de discussion avec des formations, c'est aujourd'hui le quatrième groupe au sein du Parlement européen, mais nous avons un discours très clair en disant... C'est le point de départ, la
mais
LDE,
ils sont libéraux
mais
et ils sont chrétiens, c'est-à-dire que
l'élargir.
C'est pas votre ADN.
Il va falloir l'élargir et rassembler plus largement que les libéraux et les démocrates.
Et ce sont des chrétiens et ce ne sont pas, c'est pas du tout l'ADN de La République En Marche. Mais donc on comprend bien qu'avec ALDE, il va pas se passer grand-chose malgré tout.
C'est la raison pour laquelle nous disons, nous avons ce point de départ qui réunit des libéraux et des démocrates. La formation politique du MoDem aujourd'hui appartient à ce groupe ALDE, mais nous disons qu'il va falloir l'élargir. Et c'est la raison pour laquelle. Nous nous déployons en ce moment dans toute l'Europe. Je le fais moi-même. J'étais il y a 2 jours au Portugal. Je reviens de Suède. Je serai à Vienne la semaine prochaine pour justement aller chercher le rassemblement avec tous les progressistes européens.
Alors et justement, notamment
chez les sociaux-démocrates, je crois qu'il y a un vrai intérêt. Regardez la tribune du président de la République.
Oui, les sociaux-démocrates, ils siègent au PSE.
Elle a été saluée, notamment par les sociaux-démocrates. Et donc, nous voulons ouvrir cet espace de convergence pour que ceux qui croient à l'Europe, ceux qui souhaitent effectivement, dans les faits, refonder ce projet européen, puissent se rassembler. Ce qui est terrible avec la situation du Parlement européen aujourd'hui, c'est que nous avons la même situation qui était celle de la situation politique française. Les deux grands groupes, en réalité, ils sont profondément fracturés tels qu'ils sont aujourd'hui.
Mais
ils ne sont plus d'accord sur le projet européen.
Réussirez...
Et nous disons, il est grand temps que ceux qui croient à l'Europe puissent se rassembler et former ce groupe central pivot au sein du Parlement européen.
Est-ce que vous pensez sincèrement être en capacité, vu tous les contacts que vous avez partout et que vous étiez en train d'égrener, à avoir la capacité à créer une grande coalition, votre coalition, ou est-ce que ce sera juste des coalitions de projets, ce qui est complètement différent, parce que ça veut dire qu'au gré des dossiers, eh bien, vous passerez
Il y a deux étapes, pour être très précis dans les échéances qui sont devant nous. Première étape, on va constituer des groupes. Et donc ça se fait dès le lendemain, des élections européennes. En fonction aussi des résultats.
Pensez à ceux qui nous regardent et pensez aux auditeurs.
Pour ça que j'essaie
d'expliquer.
Il y a
un certain nombre de conditions à réunir. Il faut minimum 25 eurodéputés et il faut au minimum qu'ils viennent de 7 différents États membres.
Exactement.
Ça, c'est la base.
C'est la base. Donc ça,
c'est la raison qui peut faire douter justement de votre volonté de créer un nouveau groupe au Parlement européen. C'est qu'il est très compliqué de réunir justement des sensibilités communes de 7 États membres. On ne peut pas préjuger de l'avenir, vous y arriverez peut-être, mais que tout le monde ait ça en tête.
Oui, mais vous avez raison techniquement, mais nous avons une base de départ qui est effectivement le périmètre de l'ALDE actuel. Donc nous y arriverons sans aucune difficulté. Donc ça, c'est la première étape, avoir un groupe qui soit élargi. Et puis, il y a une deuxième étape, effectivement, au lendemain des élections, qui est de construire une coalition pour se dire comment est-ce qu'on gouverne dans l'Union européenne, comment est-ce qu'on choisit les postes clés à la Commission notamment, et effectivement les discussions que nous avons aujourd'hui, notamment avec les sociaux-démocrates européens, elle peut être utile aussi pour demain que nos idées progressistes puissent diriger en Europe. C'est comme ça et de façon très simple que nous avons posé un objectif politique pour cette campagne.
On va en parler justement parce que la question que soulevait Karine est très importante, celle de l'ADN de La République En Marche. Et en l'occurrence, est-ce que ce que vous nous décrivez comme le futur groupe auquel vous allez vous rallier n'est pas l'aveu que l'ADN du macronisme aujourd'hui, c'est en réalité le centre droit libéral démocrate chrétien et que vous avez rompu les amarres avec la gauche et les sociaux-démocrates. On va en parler, Stanislas Guérini, parce que c'est important au moment justement où l'un des théoriciens du macronisme, Ismaël Emelien, ancien conseiller du président de la République, publie un livre pour définir justement ce qu'est cette idéologie qu'on n'arrive pas toujours à bien cerner après 2 ans de quinquennat Macron. On va en parler, mais d'abord Stanislas Guérini, votre portrait, il est signé Karine Bécard.
Stanislas Guérini, votre épopée politique est évidemment pour l'instant extrêmement réduite. Tout s'est enclenché il y a 21 mois seulement. Vous êtes devenu député, un député de la majorité. Durant 18 mois, vous avez porté la parole de votre groupe à l'Assemblée. Et depuis 4 petits mois, c'est vous, Stanislas Guérini, le nouveau patron, le deuxième du parti présidentiel. Voilà votre parcours résumé. Rien ne se calcule en longues et interminables années. Maintenant, à y regarder de plus près, il faut tout de même ajouter que vous avez été macroniste parmi les tout premiers. C'est-à-dire que dès l'automne 2015, en réalité, le diplômé d'HEC, qui travaille toujours dans le privé, a accepté en coulisses de s'activer en politique. Vous avez donc participé à la fondation du Parti En Marche. Pendant la campagne, c'est vous, Stanislas Guérini, qui étiez chargé de chauffer les salles. Bref, vous avez été un des piliers de la victoire d'Emmanuel Macron et vous avez été élu un mois plus tard au Palais Bourbon. Du coup, place aux grandes réformes structurelles, sauf que vous vous retrouvez dès le premier été à devoir justifier un coup de rabot de 5 euros sur les APL.
Si on veut tenir nos engagements budgétaires, et notamment au niveau de nos partenaires européens, il faut trouver des économies. C'est jamais de gaieté de cœur, mais c'était en l'occurrence pour les APL une économie nécessaire.
Ce 24 juillet 2017, Stanislas Guérini, vous assumez sans broncher. Parce que la politique, a priori, c'est faire des choix, et parce que décidément, vous n'êtes pas si novice que cela. Vous vous êtes engagé la première fois en 2006 pour soutenir DSK, Dominique Strauss-Kahn. Vous aviez 24 ans seulement. À l'époque, vous rêviez de le voir devenir président. À ses côtés, vous rencontrez ceux qui deviendront les futurs conseillers d'Emmanuel Macron. Ismaël Emelien, Adrien Taquet, Benjamin Griveaux, vous êtes tous d'anciens strauss-kahniens qui avaient imaginé et fabriqué le nouveau mouvement macronien. Aujourd'hui, Stanislas Guérini, à 36 ans, c'est à vous de diriger ce parti, ce qui signifie avoir des idées, savoir mobiliser et face à Laurent Wauquiez, se faire respecter.
Vous n'aurez nourri qu'un ressentiment supplémentaire.
Le président de la République, il dit la vérité aux Français, je pense que vous pourriez
quand il est traite de fainéant,
un peu d'inspiration.
Quand il les traite d'alcoolique? Quand il les traite de gaulois réfractaires, c'est ça, dire la vérité aux Français?
C'est vous qui êtes en train de mentir.
Je partage pas
à ce moment présent.
Et c'est François Bayrou qui viendra vous sauver. C'était le 20 mars dernier, votre premier débat télévisé avec tous les autres chefs du mouvement, et vous reconnaîtrez que ce baptême du feu n'a pas été totalement concluant. En tout cas, depuis 4 mois, c'est donc vous qui pilotez La République En Marche. Quelles ont été d'ores et déjà vos impulsions? Difficile probablement de faire en si peu de temps la révolution, mais ce n'est pas vous, Stanislas Guérini, on l'a déjà compris, qui tiendrait tête au chef Emmanuel Macron.
Réaction, Stanislas Guérini?
J'ai quelques points de nuance avec ce que vous dites. Quand vous parlez d'épopée, vous montrez un moment d'un débat où c'est la joute très classique qu'on a depuis 20 ans dans ces débats télévisés où c'est un concours de punchline, d'essayer d'assommer l'adversaire.
Bienvenue dans la démocratie au monde moderne, la vidéocratie, ça fait partie du fonctionnement démocratique.
Moi, je le dis très sincèrement, c'est pas vraiment pour ça que je me suis engagé dans la vie politique. Je considère pas du tout mon parcours comme une épopée. Je considère que c'est un engagement d'un citoyen qui, effectivement, n'était pas dans la vie politique, qui s'est engagé différemment. J'ai créé une entreprise, j'ai créé des emplois, j'en suis très fier. Et qui, parce qu'il y a une personnalité qui s'appelle Emmanuel Macron, que je considère être une chance pour le pays, par la clarté de son projet, par ce qu'il souhaite proposer aux Français, vaut le coup qu'on se batte.
Mais vous gravitez
qu'on s'engage.
dans le monde politique depuis longtemps.
Il y a des centaines, des milliers de citoyens qui se sont engagés dans ce combat politique. Donc je suis prêt à le mener, mais pas en ayant l'obsession de vouloir assommer mes adversaires. Je veux effectivement expliquer le projet. Je crois que le soir du débat que vous avez rappelé, j'ai su aussi le faire. Et c'est vraiment ça qui me semble être aujourd'hui essentiel. Ne nous trompons pas avec ce qui est analysé par le monde politico-médiatique et ce qu'entendent nos concitoyens. Un certain nombre d'entre eux n'en peuvent plus de voir des très belles punchline dans les plateaux de télévision, mais le pays qui n'avance pas beaucoup. Je suis fier, moi, de participer à une majorité qui, me semble-t-il, fait avancer notre pays dans la bonne direction.
Mais est-ce que ça vous a quand même appris quelque chose de vous confronter ce soir-là à des bêtes médiatiques que sont Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou ou Marine Le Pen? Ou alors vous gardez votre modestie et vous estimez que c'est le bon moyen de percer en politique? Est-ce qu'on ne doit pas aussi apprendre?
Vous savez, les deux ne sont pas incompatibles, oui. Bien sûr qu'on apprend énormément. On apprend énormément dans des moments comme ça.
Qu'est-ce que vous avez appris en l'occurrence?
On doit aller chercher un petit peu à l'intérieur de soi-même, si je puis dire. C'est stressant. intéressant de parler devant des millions de Français qui regardent dans des moments de joute politique.
Enfin, il était même des millions ce soir-là, mais peu importe.
Oui, vous avez raison.
Restons modestes.
J'allais parler de modestie et je crois que ça s'applique
très justement, bien. C'était assez intéressant aussi de voir que 2 ans après la présidentielle, bon, l'appétence pour un débat qui réunit tous les chefs de parti n'est pas franchement au rendez-vous. Mais bon, c'est un autre sujet.
Oui, ben, vous avez raison aussi. C'est la faute, d'une certaine façon, de ces débats et de ces débatteurs, dont je fais partie maintenant, de ne pas savoir toujours intéresser les Français et parler plus simplement, ne pas être obsédé par le fait de battre son adversaire politique d'un soir. Peut-être que, modestement, c'est une petite part dans ce travail que nous avons à faire pour renouer un lien de confiance
entre
les Français.
C'est drôle parce que moi je pensais que vous alliez nous dire, ça m'a appris qu'il fallait être de mauvaise foi, qu'il fallait taper en dessous de la ceinture, qu'il fallait crier plus fort que son adversaire.
Ça vous a conforté en stratégie et ma sincérité.
Virginie Malingre.
Vous avez évoqué le projet d'Emmanuel Macron comme vraiment le cœur de votre action, de votre engagement. Mais est-ce que vous trouvez que quasi 2 ans après son élection, ce projet est toujours aussi clair? Je rebondis sur ce que disait Ali. On voit qu'au Parlement européen, le groupe sur lequel vous pensez vous accrochez, on n'est plus sur le centre droit. On a vu tout ce qui s'est passé depuis des mois en termes de contestation de la politique. C'est quoi aujourd'hui le projet d'Emmanuel Macron par rapport aux origines?
Je suis heureux que vous m'interrogez là-dessus parce que je ne partage pas du tout l'analyse que vous avez faite d'avoir finalement dérivé dans notre projet.
C'est une question.
Au niveau européen, un projet de centre droit qui serait plutôt à l'origine, au cœur de ce que portait Emmanuel Macron. Quand on propose de créer en Europe un bouclier social européen avec un salaire minimum, je peux vous dire que ça tangue chez les libéraux européens et que ça va être effectivement un cheval de bataille. Quand on dit qu'il faut investir beaucoup plus fortement de l'argent public pour réussir la transition écologique et l'allier avec l'accompagnement social de nos concitoyens, ben je peux vous dire que c'est pas un projet libéral classique de droite. Non, au contraire, c'est exactement l'ADN du macronisme de pouvoir donner les moyens à chacun de choisir sa vie.
Alors,
de choisir
comment expliquer qu'en termes de perception, puisque je me trompe, pourquoi est-ce que tout le monde se trompe? Pourquoi est-ce que dans toutes les études d'opinion, il apparaît que les gens perçoivent aujourd'hui La République En Marche comme un parti à droite ou de centre-droit?
Là aussi, disons les choses modestement. C'est une question, non, c'est pas ce que j'allais vous dire. Je crois que c'est une question de résultat. Et dans les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour réformer le pays, il me semble que nos concitoyens nous disent les résultats ne sont pas là suffisamment rapidement. Notre vie quotidienne, elle n'est pas suffisamment encore modifiée au regard de l'espoir, de la promesse qu'a fait Emmanuel Macron.
Mais c'est pas la question que vous avez posée.
C'est une question de résultat ou c'est une question de quelques mesures symboles, pardon, comme l'ISF, comme la baisse des impôts pour les plus riches, qui aussi, au-delà des résultats, vous ont catalogué quand même comme un parti qui penche à droite, même si c'est peut-être faux.
Mais savez, d'abord, l'ISF, nous l'avions porté exactement de cette façon-là pendant l'élection présidentielle, en disant on veut transformer cet impôt, pas le supprimer, faire en sorte qu'on favorise l'investissement dans l'outil productif. Oui, mais là où nous allons pouvoir justement renouer de la confiance avec les Français, c'est en ayant des résultats. Et par la politique économique qu'on mène, on commence à avoir des résultats. Ça faisait 15 ans qu'on détruisait des emplois industriels dans le pays. Pour la première année depuis 15 ans, on recrée des emplois industriels dans ce pays. Nous avons créé 510 000 emplois depuis le début du quinquennat. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas créé autant d'emplois. Pour la première année, nous avons à la fois diminué les impôts, diminuer le déficit, stabiliser la dette. Cela aussi fait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Et donc, il faut effectivement avoir une cohérence dans la politique qu'on mène. Mais moi, je suis très fier de faire partie d'une majorité qui est capable aussi de supprimer la taxe d'habitation, de relever les minima sociaux, de faire cette grande réforme sociale qu'est le reste à charge zéro, de faire en sorte que nos concitoyens n'aient plus un euro à avancer pour se soigner, d'avoir divisé les classes par deux dans les zones d'éducation prioritaire. C'est ça la politique que nous menons. C'est une politique, au fond, pour que chacun ait la possibilité de choisir sa vie. Ce cœur-là, il est tenu. Mais il faut que maintenant, nous embarquions plus nos concitoyens, que nous partions plus d'en bas, que les réformes, c'est peut-être ça, au fond, le drame de la vie politique tel qu'il est fait. On vote
c'est
des lois
citoyens sont
à l'Assemblée nationale, on vote des lois à l'Assemblée nationale, et elles n'arrivent pas suffisamment rapidement dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Ça doit être notre obsession, au fond, de rapprocher les droits formels des droits réel, je crois que c'est le combat du quinquennat.
Mais heureusement qu'il y a des débats à l'Assemblée, heureusement qu'il y a des décrets d'application, et en l'occurrence que la République ne se gouverne pas par décret purement et simplement.
Vous avez bien raison, mais il faut faire les deux, c'est-à-dire aussi sur le terrain. Mais vous savez, une seconde là-dessus. Moi, je fais partie, je dirige une formation politique qui mène des projets citoyens. Je vais prendre un exemple à Vesoul. On a développé un projet citoyen de covoiturage avec quelqu'un qui était engagé, qui avait envie de se dire comment est-ce qu'à mon échelle, je change les choses. Il a lancé ce projet-là pour qu'on puisse faciliter les déplacements entre le travail et l'entreprise. C'est un sujet essentiel dans notre société, cette mobilité pour ramener plus de gens au travail. Il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont intégré son projet parce que La République En Marche a pu l'accompagner. C'est ça aussi la transformation qu'on doit mener. C'est à tous les niveaux de la société française parce que sinon, effectivement, on fera ce qu'on a trop longtemps fait ces dernières années, des très belles lois à l'Assemblée nationale, mais peu de changements dans la vie quotidienne des Français.
Alors, toujours sur La République En Marche et sur le camp majoritaire.
Et je voudrais rester sur cette idée voilà, du curseur, où est-ce qu'il se situe, pour définir un petit peu le macronisme, parce que je trouve que vous n'avez pas répondu à la question d'Ali Badou. Comment est-ce que vous pouvez ne pas reconnaître que votre curseur penche sérieusement à droite? Quand on voit, par exemple, les alliés que vous êtes allés chercher pour constituer votre liste aux européennes,
c'est vous le parti... Vous parlez de Pascal Canfin, de Pascal Durand...
Non. Ça, c'est des individualités. Là, je parle des partis qui vous ont rallié. Les partis qui vous ont rallié, c'est...
Le MoDem.
Le MoDem, c'est votre partenaire Agir. De la majorité. Agir, les constructifs à droite, et puis le parti radical valoisien, anciennement appartenant à Borloo, pour situer les gens, parce que Laurent Hénard est un petit peu...
Avec les radicaux de gauche aussi, mais non, je pense que ça n'intéresse pas vraiment les Français.
Mais je surveille tout. Dans les 30 premiers noms, et notamment dans les 25 qui peuvent potentiellement être élus, les deux radicaux sont de droite, valoisien. C'est la troisième personne que vous avez accepté, mais qui est au-delà des personnes éligibles, qui est effectivement une radicale de gauche. Et donc, du coup, reconnaissez juste, en fait, que la politique d'Emmanuel Macron, pour essayer de la définir, que le macronisme, en fait, penche quand même sérieusement à droite.
Stanislas Guérini.
Je crois qu'il faut se débarrasser de cette obsession de la gauche et de la droite. Je le disais tout à l'heure, on investit justement pour que ceux qui sont au minimum vieillesse puissent avoir un revenu plus décent. Qu'on accompagne mieux les personnes handicapées dans le pays, qu'on investisse dans la prévention en matière de santé,
mais ça,
dans l'éducation.
On ne parle
Il me
pas
semble
de ça,
pas
Stanislas
que ça soit
Guérini.
Une politique de droite, comme vous dites.
Mais enfin, c'est vous qui allez siéger avec les libéraux de droite au Parlement européen.
Vous n'allez pas siéger avec les partis socialistes. Pas suffisamment bien exprimé et expliqué dans le début de notre entretien. J'ai, me semble-t-il, essayé d'expliquer que nous voulions dépasser et bouger les lignes au sein même du Parlement européen.
Les libéraux de droite.
Vous savez, aujourd'hui, nos partenaires libéraux, justement, nous demanderaient d'être totalement avec eux en disant, mais au final, fermons les frontières de notre groupe. Et nous leur disons non. Nous leur disons de façon extrêmement claire que nous voulons nous autoriser à parler et à chercher à créer une convergence avec d'autres formations politiques. J'ai eu des échanges avant-hier, avec le Parti Socialiste au Portugal. Bien, on est en train d'essayer de créer ces convergences.
Le Parti Socialiste portugais, juste pour que les gens comprennent, le Parti Socialiste portugais, ses élus siégeront au Parti Socialiste européen. Stanislas Guérini. Pour eux, au moins, les choses sont extrêmement claires. Socialistes, ils sont au Portugal. Socialistes, ils sont au Parlement européen. Vous, en revanche, vous êtes nés, et c'était intéressant cette démarche-là, La République En Marche est née du dépassement du clivage gauche-droite. 2 ans après, il est légitime de vous poser la question de savoir où vous en êtes quand vous faites ce choix si important au Parlement européen.
Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas perdre nos auditeurs avec toutes les étiquettes.
Mais je
vais vous le dire de façon très claire.
Ne pensez pas que ce sont des petites questions, Stanislas
Guérini. Je les mésestime pas. Je consacre.
C'est ce qui fait l'engagement politique.
Un bon nombre d'heures.
Et c'est ce qui permet de définir le macronisme.
On est d'accord. C'est très important de savoir avec qui on va travailler. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis, vous le verrez, interrogez-les. Les sociaux-démocrates européens ont un vrai intérêt pour ce qu'on est en train de faire. Je pense
qu'on peut le dire. Vous avez travaillé avec eux. Je vous parle des Portugais. Je vous dis, les Portugais siégeront avec les socialistes au Parlement européen.
À la 22e place
qui
sur notre
vous
liste, nous avons fait un choix d'avoir une personnalité italienne, Sandro
personnalité
Gozzi.
Italienne.
Donc, une personnalité italienne qui fait partie du Parti démocrate italien. Bien, aujourd'hui, il n'est pas exclu que les eurodéputés du Parti démocrate italien puissent rejoindre le groupe que nous allons constituer demain au Parlement européen. C'est ça, faire bouger les lignes au sein du Parlement européen.
Et qui d'autre ?
Bien, j'ai échangé avec des sociaux-démocrates suédois. Eux aussi ont un intérêt pour ce qu'on
Donc
est en train de faire.
Donc ce sera un groupe de centre-gauche, si on comprend bien.
Nous avons une clarté.
l'ensemble des élus pour lesquels voteront les électeurs, s'ils votent pour la liste Renaissance, siégeront dans un même groupe. Mais ouais. Vous me parlez de la gauche. Regardez Place Publique et le Parti Socialiste qui se sont mis d'accord. Mmh. À la minute où ils ont annoncé la constitution de leur liste, ils ont dit bah, « Nous, on n'est même pas sûr de siéger au sein du même groupe, au sein du Parlement européen. » Où est la clarté ? Nous, nous avons un message clair. Nous avons mis un projet sur la table. Nous allons l'expliciter, le préciser dans les semaines qui viennent. Mais ce projet-là, eh bien, les électeurs qui voteront pour la liste Renaissance savent pourquoi ils votent.
Autre question importante concernant votre groupe, et on va ensuite avancer sur les grands chantiers qui vous attendent, et notamment la sortie du grand débat. Est-ce que vous pouvez imaginer La République En Marche, c'est un parti jeune. Vous êtes un homme jeune à la tête d'un parti jeune. C'est un parti qui n'a pas d'histoire. C'est un parti qui a été constitué, pour reprendre une métaphore facile, mais c'est un parti start-up qui a été construit pour porter un homme au pouvoir, qui a magnifiquement réussi à porter cet homme au pouvoir, Emmanuel Macron, mais qui aujourd'hui doit trouver un ancrage local qui est mis au défi de devenir une famille politique. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, justement, Stanislas Guérini, de faire de ce mouvement une vraie famille enracinée localement ?
Parce que vous l'avez dit vous-même, ce mouvement, il est jeune, il est fait de citoyens, c'est un mouvement citoyen qui se sont dit nous, on n'en peut plus de ces divisions dont on parle beaucoup ce matin entre la droite et la gauche dans notre pays. On pense qu'il y a une autre politique qui est possible. Et donc, 420 000 personnes aujourd'hui se sont engagées dans ce grand mouvement citoyen. Et donc, effectivement, cela va prendre du temps de l'enraciner parce que nous n'avons pas d'élus locaux aujourd'hui, quoique il y a des élus locaux qui sont adhérents de La République En Marche. Il y a 7 000 élus locaux qui sont des adhérents de La République En Marche. Nous allons d'ailleurs les réunir prochainement. Mais tout ça prendra du temps. Faisons les choses modestement. Je crois que la meilleure méthode, c'est de garder justement ce qui fait la recette de La République En Marche, c'est-à-dire de faire confiance à nos concitoyens, d'aller là où la politique ne va pas suffisamment. Je vous parlais tout à l'heure des projets citoyens. On mène des actions dans les quartiers, dans les zones rurales, pour justement dire à nos concitoyens, eh bien, engagez-vous avec nous, faites un bout de chemin, peut-être ici pour mener un projet citoyen, peut-être là pour aller porter les enjeux européens. Eh bien, cet ADN-là, nous allons le poursuivre. Je crois que la pire des trahisons, ce serait de perdre cette sincérité d'engagement. C'est celle que moi, j'essaie de porter à la tête de La République En Marche.
En fait, on entend le pragmatisme toujours qui est là, présent. Effectivement, on résout les petits problèmes du quotidien. La politique, c'est aussi avoir une vision pour demain, pour son pays. C'est quoi la vision, en fait, que propose le macronisme pour une France à 50 ans ?
Bien, justement, c'est de pouvoir profondément redonner à chacun le moyen de maximiser ses possibles, de choisir sa vie. Et aujourd'hui, la caractéristique de la société française, c'est d'être une société qui est au fond assez égalitaire par notre système de redistribution, les études le montrent bien, mais très très immobile. C'est-à-dire que quand on a une condition de naissance, c'est extrêmement difficile, plus qu'ailleurs, de sortir de cette condition de naissance. Et donc, toute la pensée, l'idéologie, et j'assume ce mot que nous avons, c'est de donner à chacun justement les moyens, par son éducation, en valorisant le travail, en valorisant la formation professionnelle, de pouvoir choisir sa vie, de remettre au fond de la mobilité dans la société française. La société française est trop immobile. Le président de la République, quand il était candidat, avait parlé d'assignation à résidence. Je crois que c'est profondément vrai. Et c'est en partie ce qu'ont dit les Gilets jaunes. Rappelez-vous que cette contestation sociale, elle a démarré par la question de la voiture, par la question au fond de la mobilité physique de nos concitoyens. À mon avis, ça n'est pas anodin. Et c'est précisément à ça que nous devons répondre et que nous nous attachons à répondre.
Jeff Wittenberg, puis Virginie
Malin. Vous parlez avec enthousiasme des initiatives locales, des mouvements que votre parti doit soutenir. Mais il y a d'autres réalités qui sont beaucoup plus inquiétantes, beaucoup plus prosaïques. Ce sont les attaques contre vos élus. Je voudrais savoir si elles sont toujours aussi nombreuses. Est-ce que vous demandez des protections policières systématiques pour vos députés? Puisqu'on le sait, il y a au moins une cinquantaine de députés de votre formation qui ont été soit agressés, soit menacés. Quelle est la situation aujourd'hui?
Et même plus. Vous avez raison, entre les menaces, entre les permanences détruites.
Est-ce que ça continue ?
Alors, je crois fort heureusement que ça s'est un peu ralenti ces derniers jours, mais ne considérons pas que la situation est calme aujourd'hui. Il faut rester d'une grande vigilance, dénoncer à chaque fois, même si cela peut paraître répétitif, cela peut paraître lassant d'une certaine façon de dénoncer toujours la même chose. Vous savez, je crois que...
Et pourquoi on s'en prend à vous ?
Une grande défaite... finalement, de ce moment de grand débat, ce moment démocratique, ça serait d'accepter la fin de la démocratie représentative. Le fait de dire, au fond, il n'y a plus besoin d'élus, laissons faire les citoyens en direct, les élections, ça n'a pas de valeur. Je crois au contraire que un des points de sortie du grand débat, c'est de renforcer la démocratie représentative. C'est de donner plus de pouvoir, un meilleur pouvoir à nos représentants. Pas de RIC, mais en revanche,
c'est ce qu'on vient de comprendre.
En revanche, pour être totalement complet,
je
pense que renforcer la démocratie...
On met les sous-titres.
Mais mettez le sous-titre à la fin de ma phrase, si vous m'y autorisez. Renforcer la démocratie représentative, c'est aussi lui donner beaucoup plus d'oxygène. Et donc, effectivement, remettre nos concitoyens dans des situations où ils peuvent délibérer des projets de loi. J'ai formulé une proposition il y a quelques semaines à Chartres, où nous avons formulé des propositions pour le grand débat, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des projets de loi, d'initiatives citoyennes. C'est-à-dire que s'il y a un grand nombre de nos concitoyens qui souhaitent débattre d'un sujet, eh bien ils puissent le mettre sur la table, on puisse le travailler collectivement avec des citoyens tirés au sort,
que
faire des conférences de consensus.
Qu'il n'y ait pas que le gouvernement ou que les députés qui puissent proposer un projet de loi, mais que des citoyens puissent le faire. Alors le problème ensuite, c'est de savoir comment serait voté ce projet de loi amendé, puisque les citoyens, pour le coup, proposeront un texte qui sera en définitive défini par les députés.
Ce texte serait soumis à l'Assemblée nationale après avoir été travaillé par nos concitoyens.
Alors, sur France Inter, on a le jeu des 1000 euros, et c'est vrai que pour 1000 euros, Stanislas Guérini, on va vous demander comment sortir du grand débat, puisqu'on ne sait toujours pas aujourd'hui. Virginie Malingre.
Alors, on ne sait toujours pas comment sortir du grand débat. Est-ce que vous pensez, donc, vous nous avez dit ce que vous pensez sur les histoires de démocratie représentative, délibérée, etc., mais sur les questions, justement, de plus sociales, comment vous voyez les choses? L'ISF a été un gros sujet, vous nous avez dit ce que vous en pensez en même temps, est-ce qu'on peut en faire totalement abstraction? Sur les questions de pouvoir d'achat qui sont au cœur des revendications.
Oui, bien entendu. Là aussi, vous allez me trouver lassant, mais je crois qu'il faut rappeler que des choses ont été faites, des initiatives ont été prises. Il n'y a pas une majorité qui, en un mois de temps, avait voté fin décembre dernier des mesures à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse donner 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat à nos concitoyens. J'entends parfois que ce sont des miettes. Je crois que c'est pas le cas. Moi, je suis très fier qu'il y ait plus de 1 million de personnes supplémentaires qui aient touché la prime d'activité. Parce que là, on est au cœur, justement, des revendications.
D'où la question.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de plus?
Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus?
Et donc, je crois qu'il faut poursuivre cette politique, être obsédé par le fait que le travail paye mieux. Une mesure très concrète serait de faire en sorte que, justement, les aides que perçoivent nos concitoyens soient plus automatiques. Moi, je pense que si on arrivait à mieux rapprocher l'offre de politique publique de la demande et de faire en sorte, par exemple, pour la prime d'activité, qu'elle puisse être intégrée sur la feuille de paye pour qu'il n'y ait plus des centaines de milliers de personnes qui aient droit à la prime d'activité mais qui ne perçoivent pas cette prime d'activité, on aurait déjà fait avancer les choses. Je crois aussi qu'il faut s'engager pour nos aînés. C'est remonté très fortement. Dans le grand débat, il y a une inquiétude de la population française sur le vieillissement, une inquiétude qui est légitime. J'ai dit que je pensais qu'effectivement, nous avons certainement fait une erreur en sous-indexant les pensions de retraite sur le niveau de l'inflation. Je crois que ce serait de bonne politique que de revenir sur cette décision-là. Mais il faut aller plus loin, mieux accompagner de façon très concrète nos concitoyens pour leur vieillissement, notamment pour l'accès aux maisons de retraite. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour voir qu'on n'a pas un problème massif en la matière. Les retraites moyennes, c'est 1300 euros. La place en maison de retraite, c'est 2000 euros. Bien, je crois qu'il faut généraliser les aides pour que tous nos concitoyens qui en ont besoin puissent être pris en charge par l'État pour qu'on puisse prendre en charge un quart de leur pension pour aller en maison de retraite et que ça soit fait de façon beaucoup plus efficace.
J'ajouterai
un dernier point. Je crois que réussir la transition écologique dont nous parlions tout à l'heure, c'est aussi des mesures de pouvoir d'achat. Parce que quand on dépense moins d'argent pour se chauffer, pour se déplacer, eh bien, on fait des économies à la fin du mois.
Faudra la taxe carbone? Retourner à la taxe carbone?
J'ai dit que je ne souhaitais pas la taxe carbone sur les carburants. Parce que les carburants, leur augmentation fait déjà que c'est très difficile pour nos concitoyens de prendre leur voiture, surtout pour ceux qui en ont besoin, qui doivent se déplacer pour aller travailler notamment. Et donc, la taxation carbone, elle peut être faite, mais pas sur les carburants.
Karine Bécard.
Quand j'entends ce que vous dites, je me dis qu'il n'y aura pas d'infléchissement majeur de cette politique. Et donc, finalement, ce mouvement des Gilets jaunes, qui dure depuis 20 semaines déjà, qui est encore soutenu par quasiment la moitié, voire un peu plus de la moitié des Français, c'est pas grave tout ça
Vos solutions. Moi, je ne sous-estime pas le moment.
Mais je parle d'infléchissement. Il n'y a pas quelque chose à changer, en fait. On a l'impression que votre politique, de toute façon, elle est bonne.
Je vais vous répondre. Il y a, pour moi, deux grands enseignements. un qu'on avait vu pendant l'élection présidentielle, sur lequel on essaie d'agir, un qu'on avait peut-être moins vu. Celui, ce qu'on avait vu, c'est le travail qui ne paye pas assez. Mmh. Je crois que sur les ronds-points, c'est quelque chose qui a été dénoncé tout de suite. Je me bats, je suis une mère célibataire, mais j'ai du mal à boucler les fins de mois. Et donc, sur cette politique-là, il faut poursuivre, accélérer ce que nous sommes en train de faire. Et puis, peut-être le sujet, au fond, que nous n'avions pas suffisamment perçu, c'est le problème massif d'aménagement du territoire que nous avons dans notre pays. Le modèle de construction, j'allais dire, spatiale de notre territoire, où on a dit à nos concitoyens, c'est trop cher d'habiter dans les centres-villes, allez habiter un peu dehors. On va pas quand même faire des transports en commun parce qu'on a mis tout l'argent dans le TGV. Donc prenez des voitures, prenez du diesel. Et aujourd'hui, tout ça nous explose à la figure.
Et donc, ce sujet-là,
il faudra le prendre à bras le corps, remettre plus de services publics de proximité dans les territoires, investir, et nous avons commencé à le faire, beaucoup plus dans les transports du quotidien, moins dans le TGV, remettre des bars sur les téléphones portables, c'est ce que fait Julien de Normandie, remettre de la santé de proximité.
Tout en supprimant 120 000 postes dans la fonction publique.
Oui, mais parce que on peut faire les choses si l'on fait les réformes structurelles, justement, dans la fonction publique. Mais donc, quand on va doubler le nombre de maisons de santé pluridisciplinaires dans les territoires, quand on va développer le nombre de maisons de services au public, je crois qu'on démarre ce réaménagement du territoire qui, au fond, crée ce sentiment d'injustice pour nos concitoyens qui payent les mêmes impôts, mais qui ne bénéficient pas des mêmes services publics en face.
Jeff Wittenberg.
Moi, j'ai une question sur la forme du grand débat. On a compris qu'il était terminé depuis le 15 mars. Les Français ne peuvent plus apporter de contributions. Mais il y en a un qui continue, non pas à débattre, mais à s'exprimer face à des Français et des élus, c'est le président de la République. Pour quelles raisons ? Il l'a fait encore cette semaine dans le Maine-et-Loire. Il sera la semaine prochaine en Corse et en Bretagne. Est-ce que la critique consistant à dire qu'il fait de la communication n'est pas quand même recevable alors que le grand débat est terminé ?
Vous savez, la raison est beaucoup plus simple que ça. C'est pour honorer l'engagement qu'il avait pris de se déplacer et d'échanger avec toutes les régions de France. Et donc, il a souhaité aller au bout de cet engagement-là.
Qu'est-ce que ça apporte ?
Puisque
le grand débat est terminé.
Mais parce que vous savez très bien que s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit « Ah, vous avez dit que vous irez dans toutes les régions, et puis vous n'êtes pas allé en Corse, vous n'êtes pas allé dans le Nord, vous n'avez pas échangé avec les élus ». Je crois qu'il fallait aller au bout de cet engagement. On a de la chance d'avoir un président de la République qui, pendant plus de 70 heures, a énoncé, a échangé face aux caméras, face aux Français.
Est-ce que la formule, c'est pas un petit peu usé ?
Mais vous savez, moi, je ne fais pas de la communication politique. Je crois que le président de la République, il s'était engagé pleinement à aller échanger avec nos concitoyens. Il a été au bout de cet engagement.
Il a parlé 8 heures avec les intellectuels. Il a répondu à des enfants sur des questions de harcèlement scolaire. Est-ce son rôle ? Je pose juste la question.
Il a parlé des loups, des choses.
Mais dites, c'est une question qui même je trouve étonnante d'une certaine façon. Qu'on puisse critiquer le président de la République parce que il se met en situation, au vu de tous, de pouvoir répondre aux questions que se posent les Français, d'expliquer
même les
le
enfants,
sens, les mais même les enfants. Mais vous dites ça en
riant,
parce qu'ils ont posé des questions qui étaient des questions intéressantes, notamment sur les violences
parce
à l'école,
n'est pas Pascal
sur le harcèlement.
Qu'il n'est pas ministre de l'éducation et qu'en l'occurrence, il y avait une scène un peu lunaire de discuter avec des enfants au terme d'un mouvement social historique qui est né de la hausse des prix du carburant et qui posait la question ensuite de la démocratie et de son fonctionnement aujourd'hui. Donc on a juste pu sourire en le voyant discuter avec des enfants.
Mais vous avez...
Et vous aussi, et d'ailleurs, vous avez le droit de sourire. En fait, votre boulot,
ça
je vous écoute depuis 45 minutes, il est quand même très compliqué parce que vous êtes engagé, vous avez des convictions, vous êtes à la tête d'un parti et vous êtes obligé d'applaudir à tout ce que fait le président de la République.
Mais depuis le début de notre entretien, je ne sais pas, pointer les sujets si vous pensez que je n'ai pas été sincère à un moment donné.
Ah, je ne mets pas du tout en cause votre sincérité.
Je me suis engagé précisément derrière Emmanuel Macron. Je me suis engagé parce que je pensais que ce qu'il proposait pour le pays était bon. Et nous sommes justement, peut-être que c'est aussi une nouveauté, en train d'appliquer ce que nous avons dit aux Français pendant l'élection présidentielle. Et donc, je sais reconnaître, et je l'ai fait d'ailleurs depuis le début de notre entretien, quand nous faisons des erreurs, je crois que la sous-indexation des retraites sur l'inflation, c'en était une. Donc vous voyez, je n'applaudis pas forcément à tout.
Un défaut d'Emmanuel Macron. Ça se gagne.
Un défaut d'Emmanuel Macron, il n'est jamais à l'heure.
Non, mais est-ce que par ailleurs votre mouvement ne devrait pas, vous ne le concevez pas comme un peu plus autonome par rapport à l'exécutif, et notamment à la tête de l'exécutif ? Comment on fait ça ?
Il y a deux semaines à Chartres, nous avons formulé une trentaine de propositions, justement, parce
que
nous voulions...
Vous avez reculé sur les droits de succession, excusez-moi.
Non, mais bon, on va pouvoir en reparler si vous souhaitez, mais nous voulions prendre notre part à cet exercice démocratique-là, et je pense que c'est le rôle des formations politiques, j'invite d'ailleurs toutes les formations politiques à jouer ce rôle-là, à mettre des propositions sur la table. Ensuite, le président de la République, l'exécutif, son gouvernement, le Premier ministre, choisiront quelle est la voie qu'ils proposent aux Français. Et à ce moment-là, nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en discuter dans l'hémicycle prochainement, puisque les parlementaires seront impliqués. Mais vous voyez, moi je n'ai pas peur, en tant que délégué général de la République En Marche, de mettre des propositions sur la table.
Vous parlez de toutes les villes de France, sauf de celles dont vous êtes élu, à savoir Paris. En l'occurrence, vous êtes député de la 3e circonscription de Paris, Stanislas Guérini. Entre tous les candidats à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi, Cédric Villani, je ne vais pas continuer la liste. Lequel a votre préférence ?
Vous vous doutez bien que ce n'est pas mon rôle de venir
si.
Aujourd'hui.
Vous êtes le patron du parti, vous êtes député de Paris.
Non, précisément mon rôle, c'est de garantir à ces différentes personnalités de talent qu'il y aura des conditions qui seront des conditions impartiales avec une commission nationale d'investiture.
Qui va choisir
une commission nationale d'investiture pour qu'on puisse désigner notre candidat ou notre
candidat
pour la mairie de Paris. Non, je crois pas. J'en suis même certain, pour vous répondre plus précisément. C'est pas les modalités qu'on a choisies. On veut qu'il y ait cette commission faite de personnalités justement impartiales qui prennent le temps de recevoir les différentes candidatures, de jauger aussi la qualité de leurs projets, leur capacité à gagner, à convaincre les Parisiennes et les Parisiens. C'est comme ça qu'on va procéder. Et moi, j'en serais l'absolu garant.
Pardon. C'est vrai qu'on a tellement de questions à vous poser, Stanislas Guérini. On va les faire dans l'ordre. Rapidement, Karine, Virginie.
On en revient à la question de la marge de manœuvre, finalement, que vous avez à la tête du parti présidentiel. Parce que vous dites, voilà, c'est le parti qui va choisir le candidat de Paris. On sait déjà que c'est Emmanuel Macron qui va le choisir, ce candidat à Paris, parce qu'elle est clé, cette ville, pour les élections municipales de La République En Marche.
Ouais, c'est important, évidemment. Paris, c'est 9 milliards d'euros de budget, donc cette campagne...
C'est surtout le cœur du cœur de votre électorat, en l'occurrence.
Mais pour la mairie de Paris, c'est d'une certaine façon une petite présidentielle. On ne parle pas de petits enjeux quand on parle de Paris. Et au contraire, je pense qu'on devrait de plus en plus parler de Paris et de son environnement et de Paris en grand.
Donc c'est Emmanuel Macron qui va choisir.
C'est un enjeu qui est évidemment crucial. Et je ferai de la langue de bois devant vous en vous disant que le président de la République ne va pas s'intéresser à cette élection, n'aura pas son mot à dire quant au choix de la candidature. Mais nous allons justement préparer avec cette commission nationale d'investiture les bonnes conditions pour qu'on puisse choisir dans des conditions d'impartialité.
Virginie Malingre.
Pour continuer sur Paris, est-ce qu'il y avait vraiment urgence à ce que Benjamin Griveaux quitte le gouvernement avant les européennes pour... se lancer dans la course à la candidature, parce que ça ne pouvait pas attendre juin, puisqu'en plus, maintenant, on a un remaniement qui retraîne.
Moi, j'aime les situations qui sont claires, donc tout ce qui permet de les clarifier, que les uns et les autres puissent se consacrer entièrement à la mission, à la tâche qu'ils se sont assignés, ça me semble
vous
être plutôt de la
clarté,
bonne décision.
Bon. Très sincèrement, on pouvait se dire que finalement, les européennes, ça ne compte pas, les municipales, c'est beaucoup plus important. C'était le signal que ça envoyait, Stanislas Guérini.
Moi, je ne crois pas, et vous allez voir que dans les prochaines semaines...
Vous dites que c'est le signal que ça envoyait.
Oui, mais j'essaie de répondre à ce signal que vous me, finalement, vous me soumettez. Je crois que vous allez voir que dans les prochaines semaines, les différentes personnalités qui seront in fine candidates à la candidature à la mairie de Paris vont s'engager pleinement dans ces élections européennes. D'accord. Parce que c'est l'enjeu du moment, c'est un enjeu historique et je pense que collectivement...
Et c'est pour ça qu'il fallait donc que deux ministres quittent le gouvernement de toute urgence pour dire qu'ils allaient s'engager au municipal à Paris.
Ça pouvait attendre juin, franchement.
Mais ils vont préparer les choses, mais ils vont surtout s'engager dans ces élections européennes. En tout cas, c'est la demande. En tant que patron du mouvement que je formule aujourd'hui.
Alors, il y a trois ministres qui sont sortis. Il y a un remaniement ministériel en attente. On se demande pourquoi ces remaniements sous Emmanuel Macron sont toujours aussi longs. Qu'est-ce que ça révèle selon vous ? Comment est-ce que vous analysez cette situation ?
Vous savez, quelques jours dans un moment où il y a une attente de transparence qui est très importante pour, et légitime d'ailleurs, pour choisir les personnalités, vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Je crois que les choses sont faites au bon rythme. Le Premier ministre était à l'étranger cette semaine, il est rentré
vendredi matin, très tôt.
Si je ne dis pas de bêtises. Et donc il y a des discussions au sein de l'exécutif pour qu'il puisse faire des choix.
Vous allez y aller,
Stanislas Guérini,
aux autorités. Vous allez y aller où, pardon ?
Au gouvernement.
Oh non, c'est pas du tout mon intention. Vous savez, moi j'ai beaucoup de boulot à la tête de la République En Marche. Non, et je ne l'ai pas demandé. J'ai beaucoup de boulot à la tête du mouvement. Je pense que c'est un boulot qui est utile.
Il y a peut-être une information précise que vous allez quand même pouvoir nous donner, c'est que demain, il y a un Conseil des ministres. Et à chaque Conseil des ministres, il y a un compte-rendu du Conseil des ministres avec un porte-parole qui était jusqu'à vendredi, Monsieur Benjamin Griveaux. Donc, de deux choses l'une, où il n'y a pas de compte-rendu demain, où jusqu'à il n'y a pas mercredi. De Conseil des ministres. Donc, qu'en est-il? Est-ce que le porte-parole sera nommé aujourd'hui?
Eh bien, je n'en ai pas la réponse parce que ce n'est pas mon travail à moi.
Mais vous êtes forcément.
Et donc, non, je vous garantis que je vous dis la vérité. Je n'ai pas ces informations-là.
Qu'est-ce que vous souhaitez alors?
En tout cas, c'est pas pour moi un sujet d'angoisse. Je crois que ça va pas gâcher mon dimanche après-midi. Et très sincèrement,
peut-être
le vôtre. Mais je crois que ça va pas gâcher le dimanche après-midi de beaucoup de Français de se demander qui va faire le compte-rendu du Conseil des ministres.
10 ministres sont partis.
Il ne peut pas nous répondre.
Non, mais sur je le dis clairement.
Sur l'ambiance générale, 10 ministres ont quitté le gouvernement depuis mai 2017. C'est inédit. Beaucoup plus que sous Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Comment l'expliquez-vous? Et comment expliquez-vous que ce soit si difficile à chaque fois d'avoir des remplaçants? Mais surtout cette vague de départ.
Oh, moi, j'ai pas trouvé que ça soit à chaque fois difficile d'avoir des remplaçants. Effectivement, le président de la République et le Premier ministre,
Nicolas Hulot,
Gérard Collomb, prennent leur temps à chaque fois pour choisir les personnalités.
Non, pas de mauvaise foi, pas de mauvaise foi.
Ça se guérit. Et les conseillers de l'Élysée qui sont toujours pas remplacés, vous trouvez que ça traîne pas non
qu'on
plus?
Qu'on prenne 10 jours pour choisir des ministres, c'est objectivement, ça me semble pas
tous en même temps. Je vous en prie. Quand vous parlez tous en même temps, nos auditeurs et nos téléspectateurs ne comprennent pas. Alors, je vais prendre les choses dans le calme. Vous avez toujours les flingues qu'avait acheté Alexandre Benalla au siège de la REM?
Oui, j'ai répondu déjà à cette question assez clairement. Ils sont
c'était il y a quelques semaines.
Ils sont sous-scellés.
Vous avez dit que vous alliez les vendre.
Non, j'ai jamais dit ça. Je crois que c'est trop sérieux d'une certaine façon pour parler à la légère.
Il
y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Et nous avons sollicité la préfecture de Paris pour être destitués justement de ces armes qui sont sous-scellées dans un coffre qu'objectivement, je n'ai même jamais eu l'occasion d'ouvrir.
Vous n'avez pas demandé de permis de port d'armes?
Oh non, je vous rassure. Même si parfois, vous avez dit dans des débats arides, ça pourrait être effectivement utile. Non, je plaisante. Évidemment, je n'ai pas demandé de permis de port d'armes.
C'était important de faire cette précision, Karine.
Une question pour finir quand même sur cette réflexion visiblement qui est menée sur la redevance audiovisuelle. Qui est le nerf de la guerre pour nous à France Inter et plus globalement à Radio France. Est-ce qu'il y a effectivement cette réflexion qui est menée? Est-ce qu'elle pourrait être supprimée, cette redevance audiovisuelle?
Gérald Darmanin a fait une proposition, il l'a précisé à titre personnel là-dessus, pour effectivement, puisque nous allons supprimer la taxe d'habitation et donc la feuille d'impôt qui va avec, on puisse simplifier la perception de cette redevance-là. Ce qui est certain, c'est que l'audiovisuel public a besoin de financement. Et que aucunement, dans notre majorité, il est question de revenir sur le financement que nous allons apporter pour avoir justement un audiovisuel public de qualité. Et donc, si nous simplifions les choses et que la redevance audiovisuelle est plus sur le bulletin de taxe d'habitation, il faudra trouver une autre manière pour lever cet impôt-là, pour faire participer les Français. Il y a objectivement beaucoup de pistes qui sont sur la table, l'intégrer à l'impôt sur le revenu.
Non mais répondez-nous, en l'occurrence, qu'est-ce qui a votre préférence? Est-ce qu'il faudrait la supprimer d'après vous?
Mais moi je pense qu'il faut effectivement en changer la perception de cet impôt-là, puisque nous avons supprimé la taxe d'habitation, mais je pense qu'il faut en garder la ressource, et donc ne pas supprimer complètement le
donc
revenu.
Donc supprimer la redevance telle qu'elle existe.
Oui,
en et imaginer une autre forme d'impôt pour financer l'audiovisuel public.
Exactement.
Taxe affectée, en tout cas.
Exactement. Je pense qu'il faut le faire de façon différente. Mais là encore, c'est un avis personnel. Il y a des députés qui sont très impliqués sur ce sujet-là, qui ont justement travaillé pour préparer la réforme de l'audiovisuel public. Ils ont mis différentes pistes sur la table. C'est pour les mois qui viennent.
Si à la une du Parisien, on décrit le président de la République comme seul, comme jamais, qu'est-ce que vous dites pour lui dire Jeff, non. T'es pas tout seul,
voilà, Stanislas Guérini.
Oh, vous savez, je l'occasion d'échanger très régulièrement avec le président de la République. Moi, je crois que avoir cet homme-là à la tête du pays, c'est une chance pour le pays. Et donc, je souhaite tout faire pour l'aider à réussir.
Merci Stanislas Guérini et bon dimanche. Merci à toute l'équipe de Questions Politiques et à la semaine prochaine.